France Inter.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, des scènes de joie à Tel Aviv comme à Ramallah en Cisjordanie après les libérations des 4 soldates israéliennes en échange de 200 prisonniers palestiniens. Nous verrons avec notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, comment Israël pose désormais ses conditions pour le bon suivi de cette trêve. Nous irons en Allemagne où Elon Musk est intervenu par vidéo dans un rassemblement de l'extrême droite, tandis qu'à Berlin, les opposants à l'AFD s'étaient donné rendez-vous cet après-midi. À la une également, un ado de 14 ans poignardé à mort à Paris. Et pour changer d'air, dans tous les jardins ce week-end, tous les jardins de France, le comptage des oiseaux. Enfin, attention au risque de crue dans l'Oise, la Seine-Maritime, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Le temps de demain, Céline Dacosta, sous la grisaille.
Oui, après Eowyn, voici Herminia. Et elle apportera de bonnes averses et de fortes rafales de vent sur l'ouest du pays.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Les 4 soldates israéliennes libérées ce matin en échange de 200 prisonniers palestiniens ont donc retrouvé leurs proches en Israël. Avant des examens approfondis en hôpital, elles sont dans un état stable, disent les médecins. 6 jours après le début de la trêve à Gaza, le cessez-le-feu semble tenir bon malgré des tensions, notamment sur le sort d'une otage. On va en reparler. Et puis il y a ceux que l'on appelle aussi les déplacés dans le sud de Gaza, des centaines de milliers de Palestiniens qui espèrent bien rentrer chez eux vers le nord. Mais Israël, là encore, réclame des points de contrôle, des checkpoints. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Eric.
En direct de Jérusalem. Israël pose donc ses conditions, une médiation est en cours.
Oui, alors ce qui est prévu dans l'accord, c'est que l'armée israélienne doit avant minuit abandonner ses positions sur le corridor de Netzarim qui sépare le nord du sud de Gaza et permettre ainsi dès demain aux centaines de milliers de déplacés de pouvoir retourner chez eux. Pour le moment, rien ne bouge car il y a un litige au sujet d'une otage. Elle s'appelle Arbel Yehoud, c'est une femme de 30 ans, une civile, et elle aurait dû, selon les termes de l'accord, être échangée avant les 4 soldats ce matin. Le Hamas propose de la libérer samedi prochain. Il rejette la faute sur l'État hébreu qu'il accuse de tergiverser. Israël exige une preuve de vie et demande de pouvoir la rapatrier dès maintenant. L'armée, par la voix de son porte-parole, a assuré tout à l'heure qu'elle allait insister pour réussir à faire revenir au plus vite Arbel Yehoud, mais aussi Shiri Bibas et ses 2 enfants de 2 et 5 ans, dont le sort, a dit ce même porte-parole, est préoccupant.
Et normalement, si Shiri Bibas et ses enfants sont vivants, eh bien, ils devrait être libéré avec les dernières femmes la semaine prochaine.
Alors l'accord prévoit la libération des civils avant les soldats, des femmes avant les hommes et des vivants avant la restitution des dépouilles des otages. Samedi prochain, le Hamas doit échanger 3 nouveaux otages contre une centaine de détenus palestiniens. Arbel Yehoud est visiblement vivante puisqu'elle est au cœur de la médiation de ce soir. Si dans une semaine, Shiri Bibas et ses 2 enfants ne sont pas libérés, ça signifiera qu'ils seront probablement morts et que leur corps sera rendu le 1er mars. Il reste ce soir à Gaza 90 otages de près d'une trentaine de nationalités, dont 2 Français, Ofer Calderon et Oad Yahalomi.
Thibault Lefebvre, en direct donc de Jérusalem. Et parmi les 200 prisonniers palestiniens libérés aujourd'hui par Israël, un homme était détenu depuis 40 ans. Il s'appelle Mohamed Tous. C'est l'une des plus longues incarcérations de Palestiniens par Israël. Dominique André.
Âgé de 69 ans, Mohamed Al-Tous est membre du Fatah, le mouvement qu'avait fondé Yasser Arafat, dirigeant historique des Palestiniens. Selon le club des prisonniers palestiniens, ONG de défense des détenus, il est le seul survivant d'un commando armé, grièvement blessé lors d'affrontements sanglants avec l'armée israélienne en Cisjordanie occupée le 6 octobre 1985. Arrêté et emprisonné, il avait été condamné à la prison à perpétuité, bien avant les accords de paix d'Oslo, signés entre l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, et Israël en 1993. Ce prisonnier palestinien notoire, l'un des plus vieux, souffre selon ses défenseurs de problèmes de santé graves aux reins, à l'estomac. Sa vue se serait dégradée durant son emprisonnement. Jusque-là, seuls des prisonniers palestiniens en fin de peine étaient libérés, ceux qui étaient condamnés initialement à de longues peines ou à des peines à perpétuité, ce qui est le cas de Mohamed Al-Tous, étaient exclus des échanges.
Dominique André, rédaction internationale de Radio France.
France Inter. Éric. Éric Delvaux.
À Halle, en Allemagne, Elon Musk, ministre de Donald Trump, est intervenu en vidéo aujourd'hui pour soutenir un meeting de l'extrême droite allemande. Elon Musk est aussi en pleine polémique après son salut considéré comme nazi par certains lors de l'investiture de Donald Trump et à un mois des élections législatives où la droite est accusée de vouloir briser le cordon sanitaire avec l'extrême droite. Ils étaient plusieurs milliers d'opposants à l'AfD cet après-midi, porte de Brandebourg à Berlin. Manifestation dite pour la démocratie. Reportage David Philippot.
Des bougies, des lampes torches et des guirlandes lumineuses éclairent d'une lumière orangée les arches de la porte de Brandebourg. Les manifestants par milliers sont venus défendre la démocratie et protéger le cordon sanitaire.
Ce cordon sanitaire va craquer, comme cela a déjà été le cas en Autriche, parce que les gens veulent entendre des solutions simples à leurs problèmes. Le drame d'Aschaffenburg est utilisé pour attiser leur colère.
L'immigration, l'enjeu numéro un de la campagne et son instrumentalisation par l'extrême droite, mais aussi par la droite, avec le candidat CDU, Friedrich Merz, qui veut faire passer un texte au Bundestag la semaine prochaine, durcissant l'asile et l'immigration, des expulsions quotidiennes et un refoulement systématique. Un texte qui passerait avec les voix de l'extrême droite. C'est un tabou qui tombe, craint Nadia, venue avec son drapeau arc-en-ciel à la main.
Parce que je ne veux pas que les fascistes prennent la main dans ce pays. Et je vois M. Merz déraper vers l'extrême droite. Je pense que nous devons retenir les leçons de l'histoire.
L'histoire et le futur proche, sous les applaudissements, les orateurs à la tribune mettent en demeure le prochain gouvernement d'investir dans la cohésion sociale afin de priver l'AfD du terreau fertile sur lequel elle prospère.
David Philippot à Berlin et après Berlin, Londres. Londres où plusieurs galeries du British Museum ont dû fermer leurs portes aujourd'hui et ça continuera demain parce qu'un ancien contractuel a mis hors service plusieurs systèmes informatiques. Émeline Vin.
Un informaticien contractuel renvoyé la semaine dernière s'est introduit ce jeudi soir au sein du British Museum et a eu le temps de mettre hors service plusieurs systèmes, dont la plateforme de réservation de billets, avant d'être arrêté puis relâché sous caution. Plusieurs expositions temporaires dont l'accès est payant et limité restent fermées ce week-end. Les visiteurs pourront cependant profiter des collections permanentes dont la pierre de Rosette, les sarcophages égyptiens ou l'imposant Moai de l'île de Pâques. Le musée assure que les réservations seront remboursées. L'année dernière, déjà, le British Museum avait dû défendre la solidité de ses systèmes de sécurité après qu'un employé a admis avoir subtilisé plus de 2000 objets au cours de sa carrière. Autre défi pour la réputation du musée, le soutien financier du groupe pétrolier BP, qui lui vaut d'être régulièrement visé par des éco-activistes, et la présence dans ses galeries de nombreux objets acquis de manière violente ou illégitime pendant la période coloniale et aujourd'hui réclamés par les pays d'origine. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
Et à Paris, ce sont les musées d'Orsay et de l'Orangerie qui ont été victimes hier d'une fraude à la vente de faux billets en ligne. Les billetteries ont dû être désactivées hier. Les visiteurs qui voulaient acheter des tickets étaient systématiquement renvoyés, sans qu'ils ne s'en rendent compte, vers de faux sites de vente de billets en ligne. Billetterie remise en ordre de marche dès ce matin. La mort à la mi-journée d'un adolescent de 14 ans après une agression au couteau hier, ça s'est passé à Paris. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Deux individus, mineurs eux aussi, sont en garde à vue.
Oui, deux mineurs âgés de 16 et 17 ans ont en effet été interpellés dès hier soir, identifiés par un ami de l'adolescent agressé. Il était à ses côtés au moment où, en sortant de leur entraînement de foot, un peu avant 20h dans le 14e arrondissement de Paris, deux jeunes ont donc surgi, réclamé le téléphone portable du collégien et, devant son refus, porté un violent coup de couteau au niveau de son épaule. Malgré les gestes de premier secours effectués par son ami, le pronostic vital de l'adolescent agressé a été rapidement engagé et il est malheureusement décédé des suites de sa blessure ce midi à l'hôpital. Les deux agresseurs, déjà en garde à vue, le sont donc désormais dans le cadre d'une enquête pour extorsion suivie de mort, un crime qui fait encourir la réclusion à perpétuité selon le code pénal. Ces deux jeunes, domiciliés dans le quartier, étaient par ailleurs déjà connus de la justice et déjà pour des faits de vol. Vol avec extorsion pour l'un d'eux, ce qui lui avait valu une mesure éducative judiciaire il y a un peu plus d'un an. Et puis plus récemment, le 30 octobre dernier, ces deux adolescents avaient été déférés pour vol avec violence. qu'ils avaient depuis lors, interdiction d'entrer en contact.
Charlotte Piret. Et dans le Pas-de-Calais, un suspect a été arrêté. Il était recherché depuis la découverte jeudi dans le Calvados des corps de deux jeunes de 20 ans enterrés dans le jardin de sa propre maison près de Pont-l'Évêque. Il faut désormais l'appeler Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, qui change de nom donc ce samedi pour retirer toute référence à son fondateur accusé de multiples violences sexuelles. Les arrivées du Vendée Globe aujourd'hui, trois navigateurs, une navigatrice ont remonté le chenal des Sables d'Olonne avant devant des milliers de badauds enthousiastes, Sam Goodchild, Thomas Ruyan, Nicolas Lundven ou encore Justine Métro. Elle termine huitième pour son premier Vendée Globe après 76 jours de course. Justine Métro, 38 ans, qui détient désormais un record.
C'est vraiment super et je crois l'émotion principale, c'est surtout on est content de retrouver les proches, les amis, la famille qui sont venus nous accueillir. Et puis là aussi au Sable d'Olonne, on est samedi après-midi, donc il y avait énormément de monde dans le chenal, donc ça faisait vraiment chaud au cœur. Je suis la plus rapide en monocoque, la femme la plus rapide en voile tout court et en record autour du monde en multicoque, ça reste Hélène MacArthur. C'est une satisfaction, c'est sûr que c'est chouette de mettre un nouveau temps de référence féminin sur le Vendée Globe. Et puis j'espère qu'il sera battu sur l'édition prochaine par une autre compétitrice ou par les petites jeunes qui sont très talentueuses et qui montent. J'ai hâte de suivre ça sur la prochaine édition.
La navigatrice Justine Métro au Sable d'Olonne, interrogée par le bien nommé Augustin Arrivé. Partout en France, ce week-end, on compte les oiseaux, comme chaque année, à même période, depuis 13 ans, organisé par la Ligue pour la protection des oiseaux. Il suffit de compter, pendant une heure, tous les oiseaux qui se posent devant vous. Une démarche qui a une réelle utilité scientifique. C'est ce que dit Nicolas Burel, chargé de mission à la LPO Alsace.
On est bien, effectivement, là, dans une opération de science participative. Donc, il y a un niveau scientifique et il y a aussi un niveau de participation de la population. Et donc l'intérêt, c'est quand même d'essayer d'avoir, sur une répartition la plus grande ou la plus homogène possible, à un moment, à un instant T, le nombre et éventuellement la diversité des espèces de ce qu'on appelle les oiseaux communs, et peut-être aussi de pouvoir ensuite comparer ça année après année. Ça sera déjà la 13e édition de l'opération Oiseaux des Jardins. Et donc, ça peut être intéressant de pouvoir revenir en arrière et de voir ce qu'il y avait, par exemple, 5 ans ou 10 ans en arrière. Est-ce qu'on avait globalement autant d'oiseaux? Est-ce qu'on avait, pour certaines espèces, plus, moins? Donc, ça permet après de faire, même à partir de cette science participative, un certain nombre de statistiques.
Et si vous n'êtes pas spécialiste de l'ornithologie, eh bien il existe des fiches éducatives. Vous les trouverez sur le site oiseauxdesjardins.fr. C'est d'ailleurs sur ce site qu'il faut enregistrer votre comptage. On va terminer en musique avec une jeune chanteuse nommée dans trois catégories aux prochaines victoires de la musique le 11 février. Elle s'appelle Solane, 25 ans, ukulélé entre les mains. Elle sort son premier album dont vous avez peut-être déjà entendu un extrait avec sa chanson « Rome » sur France Inter. Une voix atypique chez cette musicienne qu'a rencontré Mathieu Culeron.
C'est long, 4-5 ans de gestation pour un album. C'est le tout premier, c'est un bordel comme dans ma chambre et c'est très bien. Je venais d'arriver, j'étais toute nouvelle, il fallait trouver une direction, il fallait comprendre en fait ce qu'on avait à raconter et c'est ça qui a pris du temps. Il fallait s'installer un petit peu avant de sortir l'album. Rome a été assez apprécié et en même temps déprécié par plein de personnes, mais dans tous les cas ça me faisait de la pub. J'adore les menaces. Cette chanson elle est venue d'une sensation de peur, de danger et de voir que ça se transforme en beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, c'est merveilleux à voir. C'est super en un sens, enfin, je vois que ça a fait réagir de la bonne façon les bonnes personnes. Et d'autres sont arrivées, enfin les dernières à être arrivées, je crois que c'est Marché Droit et L'Oiseau. D'ailleurs, non, en vrai, Tout Cramé, c'est la plus ancienne. On sortait du Covid et on était coincés, je sentais une incapacité des gens qui nous dirigent à bien reprendre un mouvement et c'était un tout en fait. Dans ma vie, c'était coincé et politiquement, c'était coincé. Donc j'avais envie d'écrire ça et j'avais appelé ça Léger Exutoire. On l'a réattaqué il y a pas très longtemps.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup.
Solane, qui sera donc en concert le 26 février à Caen, le 28 à Lille et le 9 avril à Paris, l'Olympia. Attention donc à ces risques de crue dans l'Oise, la Seine-Maritime, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Vigilance orange et ça devrait durer demain avec en plus demain l'arrivée de vent fort. On va aussi aller voir ce qui se passe dans le sud, le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Voilà un autre fort coup de vent pour demain.
Oui, les tempêtes se suivent et se ressemblent. Après Eowyn, c'est Herminia propulsée depuis la péninsule ibérique qui va déferler sur la France. Elle frappera d'abord et dès le matin le littoral atlantique avec des rafales pouvant grimper jusqu'à 100 km/h sur les côtes bretonnes, 100 km/h également sur les crêtes pyrénéennes. Des rafales de vent accompagnées d'averses qui vont ensuite rentrer un petit peu plus dans les terres. On les retrouvera en fin de journée du sud-ouest au Hauts-de-France en passant par la région parisienne avec toujours ce vent bien présent. Pour les autres, ce sera plus calme. Alors, on aura également du vent. Mince soleil souvent voilé, bien nuageux sur le Languedoc-Roussillon. Soleil qui sera plus généreux sur la Corse.
Avec encore des températures bien douces.
Oui, en tout cas l'après-midi, puisque les maximales iront de 9 à 17 degrés du nord au sud au meilleur de la journée. En revanche, le matin, ça baisse avec 2 à 6 degrés. On peut même localement avoir le retour de petites gelées entre les Hauts-de-France et la Haute-Normandie. Et la moyenne ira sur ce secteur de moins 2 à 0 degrés.
Céline Dacosta.